on arrive, l'équipe elle fait trop de sale. C'est qu'on encaisse des sous, salope, j'suis devenu un pro. Allez, on répète, ta voiture est chargée, elle veut mon bébé, j'peux pas le garder. Des affaires avec moi, c'est me retarder. J'suis prêt le week-end, tu peux regarder. On vise Copacabana, bandit dans la bagnole. Polo Dolce Gabbana, j'suis sur Panam, vert bagnole. Guetteur en place, t'es N Bombers, c'est moi qu'on ralasse. C'est le week-end, guetteur en place, t'es N Bombers, c'est moi qu'on ralasse. C'est le week-end.
Ça tire comme un condom dans le bloc, c'est tout pour le papier. Tu tiens la bonbonne comme d'hab, c'est devenu ton train de vie. Fuck you pay me, charbon chaque jour. Mais ça dépite grave dans nos halls, le rempli de souffrance.
Wesh, c'est comment aujourd'hui la recette du rein t'es bonne ou pas? L'argent me fait prendre du bois, pao pao, ni nous teste pas. Le bosseur est posté, bien sûr, il fait son boulot, pas peur de la cellule. T'es bonne ou t'accoste, j'suis antenne, ensemble la coste. Machine à billets, j'peux pas roupiller, même le big gun, le point de Vendôme. Bang bang dans ton boulot, c'est moi qu'on ralasse, je ramasse. Tout le camas dans un gamos, Glock 9 sous le bomber. On fait du sale dans la zone ennemie comme on fume les ébécaignons. On fait du sale dans la zone ennemie comme on fume les ébécaignons.
Guetteur en place, t'es N Bombers, c'est moi qu'on ralasse. C'est le week-end. Guetteur en place, t'es N Bombers, c'est moi qu'on ralasse. C'est le week-end.
Ça tire comme un condom dans le bloc, c'est tout pour le papier. Tu tiens la bonbonne comme d'hab, c'est devenu ton train de vie. Fuck you pay me, charbon chaque jour. Mais ça débite grave dans nos halls, le rempli de souffrance.
Une nouvelle heure démarre sur votre radio.
Vous êtes un artiste local.
Vous souhaitez être diffusé sur notre radio?
Contactez-nous par téléphone au 09 71 18 27 18 ou par mail à contact@fhit.fr.
FHIT, la puissance de vos hits.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h et vous écoutez Le Bruit des Rêves, l'émission qui explore ces territoires invisibles que nous portons tous en nous, les mondes parallèles que nous nous inventons, des paysages imaginaires, les versions possibles de nous-mêmes. Le philosophe Gaston Bachelard écrivait « L'imagination n'est pas la faculté de former des images, mais de les déformer ». Autrement dit, imaginer ne consiste pas à copier le réel. Imaginer, c'est déplacer, intensifier, troubler le monde. Et ce soir, nous allons parler de drague, de transformation. Car c'est peut-être ça la drague. Elle peut être vue comme une poétique de la déformation. Un art où l'image et le corps se réinventent, se poussent au-delà du raisonnable. Nous passons, selon les neurosciences, près de la moitié de notre temps éveillé à dériver intérieurement, à projeter, fantasmer, recomposer le monde. Mais la plupart de ces images meurent en silence. Elles restent invisibles. Alors, que se passe-t-il lorsque quelqu'un décide de ne pas laisser disparaître ces images, quand elles deviennent visibles, quand elles deviennent présence? Mon invité est né au Brésil, pays où le corps raconte des histoires où la couleur devient presque spirituelle. C'est une drag queen de talent venant du théâtre, de la danse et du cirque. Elle s'appelle Men Libi. Men Libi n'est pas seulement un personnage, c'est une intensification, une silhouette qui dépasse les limites habituelles. Un visage qui ne cherche pas à imiter la réalité, mais à la dépasser. Dans la drague, rien n'est neutre. Chaque trait exagère, chaque geste amplifie, chaque apparition interroge. Que pourrait être un corps s'il ne se contentait pas d'être conforme? Ce soir, nous allons entrer dans son atelier invisible. Comment naît un personnage? D'où viennent les images qui le composent? Que se passe-t-il intérieurement, au moment précis où le visage devient œuvre et que le rêve devient spectacle? Et qu'est-ce que cela change de faire de son imaginaire un art vivant? Encore une fois, que se passe-t-il quand quelqu'un décide de donner forme à ses rêveries? Pour en discuter, je vous présente la talentueuse et magique Men Libi. Men Libi, bonsoir.
Et bonsoir.
Merci à toi d'être Magique. Merci à toi d'être avec nous. C'est un vrai plaisir de t'accueillir dans le bruit des rêves. Et ma première question, comme pour toutes les émissions jusqu'ici, pour toi, Manly, qu'est-ce que la rêverie et quelle est la place dans ta vie?
Alors, merci beaucoup de me recevoir dans le bruit des rêves, déjà. La rêverie, elle prend une place énorme dans ma vie, quoi. J'ai dit souvent, même dans mes shows, dans mes hostings, que mon art, le cabaret et tout que j'exprime sur scène, mon drag, c'est des façons que j'ai de fuir la réalité. Et de construire un autre, tu vois, où j'ai le pouvoir. Et ce pouvoir, en fait, où je prends les personnes en charge, où je prends le pouvoir en charge. Et ce pouvoir, en fait, c'est le pouvoir d'être moi-même. Et de pouvoir m'exprimer sans me poser des questions par rapport à ma place sociale, par rapport à rien qui nous cadre. Donc, la rêverie, c'est un constant dans ma vie. Je suis un créateur. Mmh. Avant d'être drag queen, avant d'être artiste cabaret, danseur ou quoi que ce soit, mon travail, depuis les débuts, depuis mon enfance, ça jouait beaucoup sur l'imaginaire et tout qu'il y avait dans ma tête. Et la nécessité de faire ça sortir et transformer ça en réalité. Ce sens de la création, en fait, il habite cet endroit du rêve. Mmh. C'est des réalités, c'est des contextes, c'est des nouveaux mondes que tu crées et que tu rêves d'une certaine manière. C'est des utopies, c'est des dystopies, c'est des moments de bonheur, c'est du drama, c'est très thérapeutique aussi, du coup, finalement, parce que...
C'est cathartique, tout à fait.
Ça me fait... Moi, je suis très vrai dans ça que j'ai envie d'exprimer. Je trouve que tu peux vraiment toucher le public quand tu parles des choses proches de toi, qui t'appartiennent, qui te touchent. Parce que si toi, t'es touché par ça que t'es en train d'exprimer, ben, le public va ressentir. Il va être touché aussi.
Justement, ça, on en parlera tout à l'heure de la place de l'émotion dans ta performance. Et j'aimerais qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et que l'on parle de la création de ton personnage. Je ne sais pas si tu vis comme ça, si pour toi c'est un personnage, mais aussi ton expérience sur scène. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir créé Manly B ou de l'avoir rencontré?
Ah, très bonne question. J'ai la sensation que j'ai rencontré Manly B et que j'ai créé plein de différents personnages avec Manly B. Manly B, c'est un métamorphe. C'est un persona métamorphe, tu vois. Elle se transforme en plan, pas juste visuellement, mais au niveau interprétation, jeu. Je dis souvent, je suis un interprète très versatile. J'aime pouvoir toucher plein de différentes choses, que c'est notre vie, on passe par tellement des états, des choses. Et je pense que Manly B, c'est cet endroit où c'est cette rencontre, donc, où ça m'a possibilité de découvrir plein de nouvelles choses par rapport à moi-même, ma place sociale, mon rapport avec les personnes et mes propres expertises, la danse, le théâtre, le cirque. Tout s'est transformé à l'instant que j'ai rencontré Manly B. Et avec Manly B, c'est encore un autre outil artistique, comme la danse, le théâtre, le cirque, l'écriture, la musique. La peinture, du coup, les sculptures avec les cheveux et avec la notion de silhouette, tu vois, c'est un gros ouvre d'art que tu crées. Et tout ça, pour moi, c'est des outils qui me permettent de créer plein de personnages différents, tout en étant main de bille et en parlant des choses qui m'appartiennent et que j'ai envie d'exprimer.
Tu disais tout à l'heure que la scène, c'était un moyen d'échapper à la réalité. Alors, du coup, est-ce qu'on peut dire que pour toi, la scène, c'est un espace de réparation? Est-ce que ça peut se vivre? Tu le vis aussi comme ça?
Aussi. Je pense que c'est important qu'on tout fait, parce que du coup, voilà, dans l'extravaganza, dans les contextes des shows que j'ai créés ici, j'ai signé une direction artistique. Et ma direction artistique, elle est de créer une expérience, créer quand la personne rentre dans ses univers, dans ses spectacles qu'elle va voir, elle rentre dans un autre monde, dans un autre univers, où on se porte différemment, et eux aussi, ils doivent se porter différemment. Ça veut dire, j'ai un esprit toujours qui veut ramener à la rencontre, qui veut dire, mais pourquoi on ne se regarde pas, en fait? Pourquoi on ne sourit pas aux inconnus? Pourquoi? Pour ça, j'ai créé toute une atmosphère autour avec les artistes qui travaillent avec moi, où les gens habitent un autre endroit, ces 3 heures de show qu'elles sont avec nous. Et elles ont des possibilités et des permissions qui sont différentes de ça qu'elles ont en dehors, dans la vie sociale. Tout comme nous qui sommes sur scène. Parce que, oui, les cabarets, c'est une nouvelle vie qui tout est créée pleine de paillettes. Mais les cabarets, il est aussi politique et c'est un endroit de manifestation. Et c'est un endroit où j'ai envie que le public m'y rencontre. Même si je sais énorme masque qui c'est Mélibi, moi et les artistes qui travaillent avec moi et plein d'autres artistes cabarets, ça fait partie aussi d'amener la réflexion et d'exposer des endroits qui pourraient être contraignants pour nous, mais aussi le faire rigoler, tu vois. La meilleure manière de faire un public réagir et réfléchir, c'est de les transporter par plein de différentes émotions. C'est de les entretenir, de les faire rigoler, de les exciter visuellement, et sensations, pour après leur poser une question. Et là, ils seront ouverts à te répondre. Parce que tu les as déjà embarqués dans plein de différentes choses qui sont intenses, tu vois.
Et c'est étonnant parce que tout ce que tu dis, je l'ai tellement ressenti dans tes performances. La première fois que je t'ai vue sur scène, c'était, me semble, à la Nouvelle Ève en 2024, il me semble, à l'été 2024. Tu avais fait un show sur Toxic.
Oui.
Et ce que tu dis, je le ressens, je l'ai tellement ressenti sur scène. Alors, ma question par rapport à ce que tu viens de dire, c'est, elle est pas facile. Qu'est-ce que la drague permet d'imaginer que la réalité ne permet pas?
Alors là, on va rentrer dans un truc un peu, tu vois, social, en fait. Moi, je suis un immigré. Je suis dans un territoire qui n'est pas le mien. Et constamment, on me rappelle que ce territoire n'est pas le mien. Okay. Constamment, on me rappelle que je dois faire attention à la manière que je me porte, que je parle, que je rigole, que je touche, que j'aime, que j'ai, tu vois, quand je passe ces masques de drag, quand je ne suis pas Mélibi. C'est mon choix d'être ici. J'aime la France. J'aime ça que j'ai construit ici. Et j'aime aussi parce que je sais que j'ai maintenant, depuis un bout de temps, depuis le début de mon travail ici, que j'ai commencé à voir mon travail comme créateur cabaret, j'exprime ça. Je sais que c'est je viens d'ailleurs, donc j'ai envie que les gens ressentent une façon d'être ensemble qui vient d'ailleurs. Et en fait, il y a un effet avec les dragues qui c'est un effet carte blanche. Il y a un effet, même si mon drag visuellement il est impressionnant, quand je suis dans mes shows, quand je suis dans mes créations, autant qui maîtresse des cérémonies, Madame Royale, présentatrice, host, enfin, partie de mon travail, c'est de rentrer en contact avec les, direct avec le public. Je ne mets pas en distance. La scène, c'est une partie des éléments qui composent cette création. Le contact avec le public, il est direct. Et en fait, quand je suis en Minibi, même si je joue sur le fait que je suis brésilien et que Minibi, elle vient d'ailleurs, bah, les frontières et les barrières, elles ne sont plus là.
C'est vrai.
Je suis cette figure accessible, impressionnante, qui rend les gens curieux, qui fascine un petit peu, qui intrigue, qui juste de me regarder, les gens se posent plein de questions. Et je suis là, devant eux, accessible à eux, en train de partager un même territoire. Et les barrières et les frontières, elles sont pas là dans notre, dans mon échange avec le public, tu vois. Différent de la vie sociale, où je suis une personne qui vient d'ailleurs, je suis un immigré dans un pays assez colonialiste, qui a plein de cadres et des choses qui sont très formales et qui n'appartiennent pas à ma culture d'origine et que je m'adapte. Et c'est mon choix d'être là et de vivre cette réalité que j'ai vue. Et avec Maylibi, comme je disais avant, je prends d'une certaine manière ce pouvoir qui ne m'est pas donné tous les jours de ma vie. Et je peux dire des choses et j'ai diverti beaucoup hein, dans mes shows. Je suis super rigolote dans mes shows parce que voilà, c'est la voix pour poser des questionnements, je pense. C'est créer une empathie par rapport à ces moments, faire les gens avoir des coups d'adrénaline et des bonheurs, des choses qui, quand tu vas les parler directement et sérieusement, ils vont écouter aussi. Et ces éléments, quand je suis en Minibi, je peux parler de colonialisme, des comportements, de pourquoi on n'est pas vraiment ensemble, pourquoi on n'agit pas vraiment ensemble, d'une manière qui, je ne pointe pas les doigts. Ça reste dans un endroit de poésie et de véracité. Des discours qui est vrai, quoi. Mais les gens, elles sont beaucoup plus à l'écoute.
Beaucoup plus réceptifs, ouais.
Beaucoup plus réceptifs, tu vois. Qui, quand je vais avoir une discussion dans un table de bar parce que quelqu'un a parlé les choses absurdes qu'on peut écouter, et parfois, c'est pas des gens méchants, c'est juste, c'est tellement ancré dans la culture d'un pays qui était colonisateurs, certaines choses qu'on ne s'y rend pas compte, qu'on est en train de diminuer quelqu'un qui est juste à côté, parce que ma culture m'a appris ça au long de ma vie. Et parfois, c'est super difficile d'avoir une discussion sans que les gens se sentent, parce que ça fait partie aussi de l'esprit colonialisme, la victimisation.
Ouais.
Ah, vous êtes sauvage, vous êtes à poil, on va vous catéchiser, on va vous conquérir, et c'est votre faute. C'est pas la nôtre. Donc, c'est la même chose, tu vois. Souvent, ça peut être dur d'amener cette discussion sans que les gens rentrent direct dans un truc de défensive. Oh, non, tu vois, c'est rien.
En conflit, ouais, tout à fait. Ouais. La scène, c'est je veux dire, la scène, le spectacle, c'est tellement hors du temps que on peut adresser des sujets d'une certaine manière qu'on ne pourrait pas à d'autres moments. Parce que les personnes aussi, quand ils sont tellement plus réceptif au spectacle pour ressentir, pour prendre toutes les émotions qu'il y a à prendre, qu'ils en deviennent plus ouverts aussi.
Ouais, et c'est ça aussi le travail des dramaturgies. C'est placer les choses d'une manière où, quand tu vas parler de certaines choses, et comme je t'ai dit, ça reste poétique, ça reste... Je ne fais jamais, tu vois, même si peut-être ça va amener des personnes aux larmes, bah, c'est pour une voix poétique. Et le drama, il s'est créé de là. Mais oui, je dirais que dans les shows qu'on fait, moi et d'autres artistes, aussi les personnes qui travaillent avec moi, ont beaucoup de choses à manifester. Je pense que d'une façon naturelle, je m'approche des gens qui s'identifient, qui je m'identifie, qui s'identifient aussi d'une certaine manière. Tu vois, beaucoup des artistes que je travaille, c'est des personnes transgenres, des personnes racisées. Voilà, donc c'est des gens qui comprennent aussi parfois que dans, les, dans notre vie sociale, bah, ça peut être fatigant de devoir s'imposer tout le temps. Et devoir
se justifier parfois, en permanence.
Et parfois, on n'a juste pas l'envie de faire ça. On a, tu vois, tu te fais semblant de ne pas entendre des choses parce que tu n'as pas l'envie en ce moment de rentrer dans cette discussion. Et parfois, tu as l'envie d'éduquer. Ça dépend. Et je pense que quand les gens viennent dans un cabaret, maintenant, on commence à voir un public très récurrent qui savent déjà que ces choses font partie du show. J'ai eu la sensation qu'au début, il y avait un grand effet de « Ah ouais, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à chialer, quoi. Je ne m'attendais pas à avoir cette réflexion et la ressentir autour de moi socialement. Genre, de me dire « Putain, il y a ça. » Tu vois, les dernières shows qu'on a fait, le vendredi dernier, c'était très spécial. Il y avait un public énorme déjà, les gens étaient incroyables. Mais beaucoup d'entre nous, je pense que c'est un effet burn-out de l'hiver, tu vois. C'est la fin de l'hiver, on n'en peut plus, on s'arrache les cheveux là. beaucoup d'entre nous, beaucoup des artistes ont ramené une manifestation par rapport à ça qu'ils sont, tu vois. Ça qui elles sont. Par rapport à la transidentité, par rapport au manque d'amour, par rapport à... On n'a pas plombé les gens, mais pendant plusieurs moments du show, plusieurs artistes ont amené des choses où des différents du public, différentes personnes du public ont pu s'identifier. Et à la fin, au discours final, bah, tout le monde était dans cette boule ensemble, tu vois.
Oui, oui, il y a eu une unité qui a été créée. Et tu parlais tout à l'heure de que tu venais du Brésil. Et je voulais savoir comment est-ce que cette culture a nourri ton imaginaire et comment aujourd'hui tes racines dialoguent avec la scène drag française.
Au Brésil, la culture, elle est complètement différente par le simple fait. Moi, simple fait, non, c'est pas simple, c'est très complexe. Mais j'ai la sensation que, depuis les années que je vis en France, je me rends compte que la pauvreté en France, elle est différente. Je dis pas qu'il n'y a pas, mais au Brésil, on a vraiment un niveau de pauvreté et de misère qui est beaucoup plus élevé. Et quand on dit que le Brésil est violent et tout ça, bah, c'est pas manque de police, c'est pas manque de c'est juste qu'il y a des gens qui ne connaissent pas notre réalité et qui ne peuvent pas vivre dans un autre contexte, qui sont dans un sort de misère qu'on ne connaît pas en France. Et ça, c'est associé à notre histoire où, tu vois, nos ancêtres ont été dévastés et la société, elle s'est recréée depuis des années de domination. Et jusqu'à aujourd'hui, cette domination, elle est présente. En France, on a tout un système social qui est très ancien et qui a eu beaucoup de richesses enlevées des endroits comme le Brésil pour être mises en place. Au Brésil, on n'a pas ça. Au Brésil, si tu es malade, tu vas payer pour tes médicaments. Si tu n'as pas de l'argent, c'est tes amis qui vont t'aider, ce n'est pas l'État. Si tu as une galère, par exemple, je suis danseur, je me suis cassé les genoux, je vais devoir rester des mois, arrêter. Je n'ai pas des assurances, donc je ne travaille pas, je ne suis pas payé, je suis en Qatar. Sauf que notre système d'aide, notre système d'assurance, c'est les gens qui sont autour de nous.
Oui, c'est mutualisé.
C'est nous-mêmes. Tu vois, on sait qu'on va pas, on va pas, il y a toujours quelqu'un qui va nous soutenir et qui va être là pour nous. Ça crée une façon de vivre ensemble qui est différente d'ici et qui est très, très, très vif et passionné. Tu vois, on se parle de manière passionnée. Si on s'engole, on s'engole, ça rase, on laisse tout sortir, on résout les problèmes et après on passe à l'autre chose parce qu'on s'aime de toute manière. Donc voilà, on a fait sortir les choses. Tous ces cadres, ils marchent complètement différemment en France. En France, on est beaucoup plus dans la retenue. Tu vois, on construit des boules de neige dans nos têtes à la place de laisser les choses sortir parce que c'est pas poli. Tu vois, il y a plein de concepts qui cadrent nos actions sociales d'une manière différente. Donc oui, je pense que c'est ça qui m'amène à vouloir travailler mon drag comme mon drag, mon art en général. Parce qu'encore une fois, le drag, c'est encore un outil, tout ce que je fais, soit en mouvement, soit en écriture, soit en image, comme si j'ai raconté des histoires et j'ai créé des réalités pour que les gens habitent ces heures qu'on est ensemble, on s'aime, tu vois.
Excuse-moi, oui, vas-y.
Et c'est là que je pense que ma culture amène à ce territoire français, du cabaret français. Les cabarets français, c'est une institution. En France, les cabarets, ce n'est pas cette institution, c'est autre chose. Tu vois, j'ai créé les premières cabarets des Rio en 2002. Et c'était autre chose, hein. C'était pas du tout comme les cabarets que je fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis traversé aussi par l'imaginaire français. Et je pense que je viens d'une culture et d'une façon de vivre qui amène tout un autre imaginaire et une autre façon de créer de l'art, du cabaret, un personnage de la queen, tout ça. Qui vient d'ailleurs pour le public. Et j'ai envie que le public ait la sensation que je viens d'ailleurs. Et que tout ce que je leur propose, ou partie de ça que je les propose, c'est de nouveau pour eux. Ou c'est quelque chose que c'est tellement évident, mais pourquoi on... Ah oui, maintenant que tu parles, c'est évident. Pourquoi? Enfin, tu vois. Donc, ouais, sûrement ma culture... C'est ça qui apporte la différence à mon travail de création ici en France.
Je comprends.
Et traverser la couture, hein, parce que c'est une couture que j'aime. Je pense de 15 ans.
Oui.
Donc j'aime cette couture. Et j'aime bien être traversé pour elle aussi, et trouver les points de connexion et des connexions pour tisser de nouveaux endroits, tu vois.
Alors justement, j'aimerais qu'on parle de ton processus de créatif. Comment naît une chorégraphie? Comment est-ce que tu t'inspires pour tes costumes, ton maquillage? Et j'aimerais savoir, est-ce que ça part d'une idée, de quelque chose à défendre? On en parlait tout à l'heure, d'une émotion ou d'une rêverie, tout simplement.
Franchement, c'est très cliché ça que je vais dire, mais c'est trop vrai. L'inspiration, elle est partout. Il y a plein de différents endroits et situations. Depuis gamin, tu vois, j'étais artiste depuis gamin. Et en fait, j'ai commencé à faire du spectacle parce que j'étais hyper active. J'étais un enfant vraiment hyper difficile pour mes parents. Et c'était la voie qu'ils ont trouvée. De stimuler ma créativité, mon imaginaire, pour que je puisse commencer à prendre contrôle de ça. Donc, y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Et je suis très influencé par tout ce qui est autour de moi, et même loin de moi, et pour les personnes qui sont autour de moi aussi. Quand je vais créer, en parlant du spectacle, quand je vais créer un spectacle, je propose à des artistes qui m'inspirent déjà pour ça qu'ils sont. Parce que quand j'appelle un artiste, je ne vais pas les transformer en quelque chose d'autre pour qu'il rentre dans le cadre de mon spectacle. Au contraire, c'est son identité qui va transformer ma création. Donc, quand je forme un groupe pour créer un cabaret, pour créer un show, on va toujours dans mes shows. Il y a ça aussi que je pense que c'est un point particulier. C'est qu'on a plus de répétitions quand je programme un show. Et c'est pour ça que je ne fais pas des shows une fois par mois, pour avoir le temps de bien préparer la chose. Et on se rencontre en répétition et je propose plusieurs numéros collectifs à part leur numéro identitaire qui les appartient et qu'ils ont libre pour faire et exprimer ça qu'ils veulent. Mmh. Et quand je leur propose en DA ou en chorégraphie ou en proposition scénique pour qu'on fasse quelque chose en groupe, c'est en respectant et en prenant en charge leur univers. Tu vois, je n'appelle pas un artiste pour une création ou pour un show au hasard. Tout fait partie d'un DA qui est influencé par leur identité. Donc, les personnes qui sont autour de moi m'inspirent énormément. Je trouve que le travail en groupe, il est hyper riche artistiquement. Tu vois, dans ma vie de danseur et de circassien, je jouais beaucoup de solos. Mmh. Et autant qu'artiste indépendant, cabaret, tu fais souvent des solos. Mais je trouve que c'est dans cet échange des groupes que c'est le plus riche de la création. Parce qu'il y a un peu de chaque personne qui va te transformer, qui va transformer les idées et créer quelque chose qui appartient à tout le monde. Et ça, je pense que le public le ressent dans les shows, que tout le monde a sa place et tout le monde est mis en valeur. Parce que j'ai besoin, je pense, pour créer, d'être influencé par les personnes qui sont là, tu vois, et que ça soit un vrai échange. Avec mon drag, avec mes libis, visuellement, j'aime la transformation. C'était ça qui m'a ramené à faire du drag. Mmh. C'était un jour, Cookie Kanti m'a maquillée pour la première fois. Je l'ai rencontrée en 2016-17. Et elle m'a maquillée en drag pour la première fois. Mmh. Je suis allée devant le miroir, je ne me reconnaissais pas. Je savais que c'était moi. Je voyais ses réflexes bouger avec moi. Mais ça m'a tourné la tête de me dire que je pourrais, à part faire tout ce que j'ai fait artistiquement, en plus créer quelque chose de complètement différent et irréel et mettre face aux gens, tu vois.
Alors justement, quand tu te maquilles, est-ce que tu as l'impression de disparaître ou d'apparaître, tu vois?
C'est très ambigu. Ouais. Je m'efface pas quand je suis en Malibu. Au contraire, c'est un endroit où je prends le pouvoir. J'ai en puissance. Ouais. Alexandre, Malibu, c'est Alexandre en puissance 10 000, quoi. Donc non, je m'efface pas. Je me potentialise. Je sais pas si c'est.
Si, ça fonctionne.
Je me potentialise quand je me maquille. Mmh. Et je pense voilà que visuellement j'ai mon identité visuelle. Je pense que mon travail visuel est très reconnaissable. Mmh. Et je propose quelque chose qui sort un peu des endroits très classiques de drag, tu vois. Même si parfois j'aime bien les habiter aussi. Les drags classiques, les drags old school, je kiffe sa race. Donc, bien sûr que parfois, j'ai envie d'être aussi en mode drag old school. Mais je pense que mon nom aussi, Mainly, Bi, Mainly, ça veut dire masculin en anglais. Mm. Que c'est en opposition à ça qu'on s'attend, ou qu'on s'attend. En 2016-17, quand j'ai commencé à faire du drag, on s'attendait encore moins à un drag queen, décasser les codes du genre féminin aussi. Mm. Alors que les femmes cassent ces codes. Hein. Il y a plein de femmes qui ont masculinité hyper belle et hyper assumée. Même si elles s'identifient comme femmes ou qu'elles s'identifient comme elles veulent. Mais la féminité a cette puissance aussi masculine. cette binarité, elle n'existe pas en fait, tu vois. C'est encore une chose qu'on a inventée pour nous séparer, pour créer des frontières et tout ça. Et du coup, je pense que quand j'ai créé mes Libye, c'est ces endroits d'ambiguïté, c'est cette permission à ne pas me poser des questions par rapport au genre que j'habite, par rapport à la couleur que j'ai, tu vois. C'est un prisme qui peut envoyer des réflexes à plein d'endroits différents, créer plein des images différentes. Il y a eu quelqu'un du public dans les dernières shows qui m'a dit un truc super joli, c'est qui tu vois, elle a compris l'essence de mon nom drag. La lettre B, c'est quelque chose de très ouvert. En anglais, B, ça veut dire être. Après, je laisse B aussi parce que bah, je peux faire plein de jeux de mots avec, exprimer plein de choses avec, tu vois. Mais elle est venue me dire qu'elle était très perturbée par mon personnage parce qu'elle ne comprenait pas les endroits de masculinité et féminité que j'habitais. Parce que parfois, dans ma performance, je suis circonscient. J'ai un corps qui est encore d'un circonscient, de quelqu'un qui est habitué au effort et qui fait des choses musclées, enfin, tu vois, au niveau mouvement.
Ouais.
Rien en soi. Et en même temps, il y a une grande délicatesse de mouvement qui apporte, qui, tu vois, et je pense que c'est ça. C'est ces endroits qui ne sont pas des endroits, en fait, qui sont juste des états qui peuvent changer constamment.
En parlant de métamorphose, on écoute L'Oiseau de Bertrand Belin. À tout de suite sur Le Bruit des Rêves.
FX, la puissance de vos hits.
Si j'étais un oiseau, je survolerais les villes, je survolerais les campagnes, les parkings, d'autres parkings, les monuments, les chantiers, je survolerai les chantiers. Si j'étais un oiseau, même tout petit, je survolerai le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse, les avions de ligne. Je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau, si j'étais un oiseau. Si j'étais un oiseau, mais je ne suis qu'un serpent, et ma vie est à terre, mon ventre est sur la pierre, où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en muse, de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs, je mange les œufs de colombe. Cui.
FX, la puissance de vos hits.
On est de retour sur le bruit des rêves avec la drag queen Man Libby.
Et puis il y a quelque chose aussi de plus fragile, je trouve, dans ton art. Tu parlais tout à l'heure de qu'il y a des moments où tu peux émouvoir aux larmes. Moi, ça m'est arrivé quand au théâtre de Jazé, c'était en décembre 2024, il me semble, tu avais fait un numéro hyper épuré avec juste un bijou à la taille, un pantalon noir, les pieds nus, je crois, et les cheveux lâchés. Et tu as fait un numéro d'acrobatie sur une chaise. Et c'était hyper bouleversant. Et moi, voilà, il y a les larmes qui sont venues. Et ça me permet de faire référence à quelque chose que tu as dit dans l'émission de Perfect Queens sur Energy 12. Où tu as dit, on a une image du drag très construit, où il ne faut pas être moche. Mais moi, j'aime amener ce côté chaotique et cette beauté peut-être détruite.
Ouais.
Et donc,
parce que c'est la vie, c'est notre réalité. La vie, parfois elle est belle, parfois elle n'est pas belle. Et je pense que les arts, c'est un réflexe de ça aussi. Tu vois. Je fais souvent ça avec mon drag. Je trouve que c'est précieux. Ouais. Le drag, tu vois, tout ça, tous ces masques, toutes ces choses brillantes, colorées, géantes, qui on amène et qui on met face aux gens pour les impressionner, pour les détourner l'imaginaire. Genre, tu vas faire les yeux faire ça, quoi, parce que c'est beaucoup aussi. Je trouve que c'est aussi précieux de montrer ça qu'il y a en dessous, parce qu'en dessous il y a de la chair, il y a un cœur, il y a des émotions, des histoires. Et encore une fois, hein, c'est ça aussi la versatilité de mon travail. J'aime les drags beaux et construits. Genre, tu vois, les drags qui sont impeccables. Mais pas toujours, quoi. Tu vois, je trouve que si tu veux faire de l'art avec les drags, parce que toute forme de drag est valide dans le sens où il y a des gens qui veulent faire de la beauté, il y a des gens qui veulent faire du campy, il y a des gens qui veulent faire, tu vois, et c'est ça que c'est merveilleux dans l'art du drag, du cabaret, c'est que tu peux tout faire. Mais ouais, moi je suis chaotique dans ma vie, dans mon imaginaire. Et je crois que bah, l'art, c'est un réflexe de la vie. Et je trouve très important pour mon drag, pour mon art, de montrer ce côté chaotique aussi qui existe dans ma vie, qui existe dans la vie en général. Hein. Voilà,
ouais.
En 2026, c'est chaos autour de nous. Ces hommes blancs encore qui sont là, en mode, c'est quoi ce bordel? Et ouais, moi j'aime beaucoup prendre les gens par surprise aussi, dans ce sens, dans cette déconstruction. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui se disent drag queen, et moi je suis un drag queen, qui font ça. Tu vois, parce que oui, c'est ta carte de visite, c'est ton... L'image du drag, c'est très important. Si important que la performance, si important que la technicité, c'est de la technicité aussi, tu vois, c'est très difficile. Il y a eu, un autre jour, j'ai eu deux danseurs qui ont venu voir en show et qui étaient très critiques par rapport aux performances de certaines drag queens dans ces shows. Et on m'a dit, ah, nous, on va faire du drag, on va faire mieux.
Oui.
Et là, je les ai regardés, j'ai fait, écoute, c'est pas parce que tu danses que tu vas faire du drag, que tu vas performer mieux que d'autres drag queens qui sont ici dans cette scène que tu es en train de critiquer. Parce qu'en fait, c'est tout en autre technicité, en autre voyage, et c'est très difficile. Moi, je suis acrobate, et pour moi, les drags, c'est la chose qui me demande le plus.
Tu
vois? Ah ouais, au niveau investissement, des temps, des créativités, des matériels, des expérimentations, tu vois, j'ai le temps que tu prends pour trouver un mug qui t'appartient et qui te parle au niveau identitaire, tu vois, enfin, Tu peux te faire maquiller et mettre en costume que tu as payé pour, et tu sais danser et faire des performances, mais ça ne veut absolument pas dire que tu es un drag queen. Tu vois, un drag queen, c'est une énorme recherche. Et c'est beaucoup de paramètres techniques que tu dois rassembler dans la même chose.
Et il y a toute... En effet, c'est une vraie complexité. Et tu l'as dit, il y a énormément... Les drags qui étaient là dans ton show, c'était à House of Flowers, c'était au Hasard Ludique que j'ai vu. Chacune avait sa personnalité aussi, sa technique et son univers, en fait. Et je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui est assez riche chez toi, c'est ton univers musical et comment la bande-son, elle devient un moteur pour aller plus loin dans le spectacle et dans l'émotion aussi. Je trouve que c'est un vrai souffle dans tes performances. Qu'est-ce qu'elle a comme importance, la musique, dans ta création?
La musique, c'est un endroit énorme. La musique, c'est vraiment un langage universel. Ouais. Je pense que s'il y a une forme d'art qui est un langage universel et qui pour déclencher plein de ressentis dans plein de différentes personnes qui se retrouvent dans la même musique, tu vois. C'est la musique, quoi. Moi aussi, souvent, j'aime bien travailler avec la musique live. Et là, c'est mon état de bonheur maximal quand j'ai le musicien. Parce que du coup, on peut en plus créer des subversions avec des musiques. Mais... ça rentre dans le sens, dans le fait que j'aime avoir du sens et raconter des histoires dans mes créations. Je ne vais jamais performer une musique qui ne me raconte rien à moi-même, juste parce que même si je vais danser, même si c'est en performance que je fais beaucoup, tu as bien vu, des performances virtuoses et animées pour divertir. J'aime divertir les gens aussi. Mais même si c'est en place absolument des divertissements où il n'y a pas un fond émotionnel ou quoi, il faut que ça me parle, il faut que ça me crée des sensations pour que mon corps réponde à ça et que je sois embarqué par la musique pour embarquer le public. Encore une fois, le public va ressentir ça que tu ressens. Si tu ressens rien sur scène, le public ressent rien. Même si c'est juste du divertissement, il faut que ça se passe quelque chose pour moi, ou interprète, l'interprète que je suis en train de voir, ou le créateur que je suis en train de voir. Il faut qu'il soit habité par le divertissement ou par ça qu'il veut exprimer, pour que je sois avec lui vraiment, avec elle ou lui vraiment. Et du coup, je pense que la musique, très souvent, c'est beaucoup dans une performance, c'est un appui très fort. C'est justement où toi, tu t'appuies.
Oui.
Et encore une fois, je ne performe pas qu'un style musical. J'aime bien y aller de la musique classique, au rock and roll, électro, en passant par des choses, tu vois. Dans mes shows, on voit toute cette palette musicale aussi diverse. Et je crois que cette diversité. Je crois que cette diversité ramène aussi de la valeur, parce que du coup, le fait qu'on n'est pas dans un même style musical d'interprétation, une chose met en valeur l'autre.
Ouais.
Tu vois. Et d'un coup, la musique, elle est très importante dans mon travail, même si je ne suis pas musicien. Je chante à Roland-Pou avec mon groupe de musique, je fais des backing vocals, mais je ne suis pas un chanteur. J'ai cette préoccupation et cette capacité de mettre la musique en scène et de la faire partie entièrement de mon performance avec tous les éléments. Et y a un autre truc qui t'a parlé par rapport à la diversité que tu vois dans mes shows, d'identité, que chaque artiste a vraiment son identité. Je veux pas que ça sonne comme en critique, c'est plutôt en observation et en constatation. Je trouve qu'en France, très souvent, dans les milieux drag queen, à Paris, je parle, parce que déjà, j'ai commencé à faire de drag à Marseille de plus en plus. Ici, encore un autre univers, c'est les tout débuts. C'est un peu les drag à Paris en 2016, quand j'ai commencé à sortir dans ces milieux. Tu vois, où elle s'y connaît, où elle s'y connaît, où il y a un autre moteur, ça se mélange plus. Mais je trouve que très rapidement, les drag à Paris forment des niches, des groupes, des personnes qui se rassemblent. Et qui, parfois, je généralise pas, mais je vais dans un drag show. J'ai la sensation que je vois beaucoup de performances qui se rassemblent. Alors que c'est tout contradictoire
Avec le drague.
à ça qu'on a l'envie de manifester avec les dragues. Parce que quand on parle de dragues, bah, les dragues, c'est très ample. Hein. Les queens, c'est juste en faction de ça. Et la faction qui peut toucher les mainstream. Donc, qui, d'une manière massive, les gens connaissent les drag queens. Tu vois, les gens qui sont pas dans les milieux, qui fréquentent pas des shows et qui ont l'occasion de rencontrer tous les autres styles de drag qu'il y a et des artistes. Enfin, pas besoin de citer, mais bon, voilà, drag queer, drag king, drag créature, club kid, des artistes cabaret. Qui font pas de drag, mais que c'est aussi de drag parce qu'il y a tout un truc visuel. Enfin, il y a tellement de différents en palette, tellement riche. Et moi, je crois que c'est encore une fois, quand tu constitues un groupe, quand tu fais la DA d'un show, quand tu penses que tu veux toucher des personnes différentes, des univers différents, des identités différentes, ben ça, c'est très important en fait. Que les artistes soient divers et que chacun se donne. Quand on est différent, tout le monde a mis en lumière et mis en valeur. Tu
Alors
vois?
justement, tu parles de ton lien avec d'autres artistes et on en parlait tout à l'heure en début d'émission de Extravaganza, de House of Flowers. Est-ce que tu peux nous raconter la naissance de ces shows et ce que tu nous racontais, ce que tu voulais créer?
Ouais. Alors, ça vient de loin, hein, parce que des bitches autres, on ne dirait pas, mais j'ai 42 ans.
Ah, ok,
Voilà.
ouais, non.
Et j'ai commencé à faire de la scène quand j'avais 8 ans. Donc, au Brésil, encore une fois, il y a ce côté qui est beaucoup plus pluridisciplinaire dans les théâtres, dans la danse, dans les cirques. Tout se croise, tout se mélange, tu vois. Donc, très vite, j'ai commencé à jouer dans des différentes choses. En 2002, j'ai donné des cours d'acrobatie aérienne et je me suis retrouvé avec un groupe d'élèves qui étaient des acteurs, des musiciens, des danseurs. Ça faisait plus d'un an et demi, 2 ans qu'on faisait des cours ensemble. On est devenus amis, on est devenus un groupe. Des personnes qui s'aimaient et qui partageaient des expériences. Et du coup, bah, j'avais un lieu qu'on fréquentait, qui nous a dit, qui moi, un jour, j'ai dit, bah, vas-y, on fait un show ensemble. Tu vois, on crée des petites choses. Et comme je te disais, les cabarets, ce n'est pas quelque chose qui est dans la culture brésilienne. Maintenant, de plus en plus, c'est un mouvement assez mondial. Les cabarets. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va faire un cabaret. Et on a pris comme référence Carl Valentin, qui c'est un dramaturge allemand de notre époque, qui c'était le début du stand-up comedy. Il s'est enlevé dans les bars, il parlait des textes, il s'est assis, c'était quelqu'un qui, voilà, recherchait sur Google Carl Valentin. Et on a créé, il était très absurde, donc on s'est dit, vas-y, ça nous donne une excuse pour faire ça qu'on veut. On a commencé ces cabarets. Et c'était énorme, en fait. On a fait de très, très belles choses ensemble. Il y avait un groupe de musique. Les gens du groupe de musique faisaient des acrobaties aériennes. Nous, on prenait les micros, on faisait des jeux avec le public. Tout le monde était partout. C'était très, un groupe très pluridisciplinaire à l'intérieur. Quand je venais, nous, en France, au Brésil, j'étais aussi prof dans un fac de danse. J'ai fait ma formation en danse et performance. Donc, j'arrivais en France pour un voie très institutionnel.
Ouais.
Avec une bourse de recherche pédagogique pour mon développement des méthodes d'enseignement et pour créer un solo avec un chorégraphe pour le festival d'Avignon Mines. Et après, j'ai resté dans ces milieux de la danse institutionnelle de la France. J'ai été complètement étonné par les politiques culturelles en France, par la quantité d'extructures qu'il y a ici, la quantité d'argent que ces extructures elles ont pour investir dans la création du spectacle. Et du coup, entre 2010 et 2006, j'ai devenu un danseur et j'ai rentré dans ce cadre. Okay. À partir de 2015, à peu près, j'ai commencé à me rendre compte que je me sentais très vide artistiquement, que j'avais plus en voix et que souvent la chose qui fascinait les chorégraphes, parce que du coup, pour être danseur ici, tu passes des auditions.
Ouais.
Donc tu passes des auditions absurdes avec 300 personnes, avec 100 personnes qui durent 3 jours. Je travaille avec des grandes compagnies, tu vois, avec des centres nationaux de danse, des choses comme ça. Et du coup, la chose qui fascinait les chorégraphes très souvent sur moi dans ces premiers rapports, qui c'est ma différence, ça devenait souvent problématique dans un moment. Et j'ai commencé à me sentir très cadré autant que j'ai devenu un interprète, quoi.
Ouais.
Et du coup, en 2015, j'ai redécouvert les cabarets. En France, les cabarets alternatifs, les shows drag, il y avait très peu de drag queens qui faisaient des shows, des drag en général qui faisaient des shows, et très peu des lieux qui soutenaient ça. C'était surtout à l'époque la Joie du Barré des Cookie Canty. Et du coup, j'ai commencé à habiter, à venir en tant que public, hein, dans ces lieux, et très vite, je me suis dit, putain, en fait, je suis suffoqué par les spectacles conventionnels de France, par les structures privilégiée par cette façon de me cadrer dans quelque chose et j'ai besoin de me libérer de ça.
Ouais.
Dans les 2015-2016, j'ai commencé à faire du cabaret, des performances en tant que burlesque d'abord. Et après, en 2017-2018, j'ai commencé à faire du drag et rassembler tout. Donc les cabarets et les drags, pour moi, c'était vraiment en fuite et un retour en même temps. Une fuite d'une situation que j'ai pris très longtemps pour me rendre compte, qui m'effaçait complètement, parce que c'était très confortable, hein, d'être dans cette structure,
ouais,
et cette condition de travail. Et un retour à tout qui fait partie de mon travail avant que je me déménage en France et que je rentre dans l'institution de l'art. Donc c'était ça qui m'a mis... Alors là, j'ai en doute, j'ai répondu à ta question, c'était ça, non?
Ma question, c'était de savoir comment est-ce que House of Flowers et Extravaganza étaient nés.
Voilà. Et du coup, c'est comme ça. C'était en urgence de retrouver ma voix artistique.
Ah, ouais.
Parce qu'au tout début de drag, donc en 2018, comme je t'ai dit, j'aime travailler avec des groupes, j'aime travailler avec des personnes. Donc, dès que j'ai commencé les drags, j'ai créé la House of Flowers dans une idée de rassemblement d'artistes